Благодателю, приди, вселися в ны, и очистины от всяких смертей.
Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue à cette émission consacrée à Histoire épée, une proposition dans le cadre de la fête des 10 ans de La Courtine 1917. Nous sommes en direct depuis Jean-sur-Pirol et nous allons passer une heure ensemble autour d'une page méconnue de la Première Guerre mondiale et par conséquence d'une motivation de transmettre la culture d'épée. À la technique Didier et Justine, à l'animation Nini, Justine, Nejma et Lilou, à la préparation qui vous parle, Nini Villegas.
Cuando grito sin usar la boca y mi furia se come a la gente porque muerde aunque no tenga dientes. El dolor no me causa problemas, hoy los dolores resultan.
15 et 16 juin à Jansiou, Feltin, La Courtine et à Saint-Cytier, l'association La Courtine 1917 vous invite à fêter ses 10 ans et vous propose de nombreuses activités.
Chemin de mémoire,
rencontre débat,
conférences,
expositions,
dédicaces,
théâtre,
contes,
concerts,
marionnettes,
films d'animation,
balades découvertes,
repas populaires et festifs
et deux plateaux vassivières. Passer à faire connaître et vivre une histoire singulière, celle de ces milliers de soldats russes venus combattre en France en 1916 aux côtés des soldats français.
16 500 soldats russes arrivent en Creuse fin juin 1917 sur le front en Champagne. Ils ont perdu près de 5000 de leurs camarades dans les combats. Ils ne veulent plus faire la guerre, ni tuer, ni se faire tuer.
Alors ils s'exigent de rentrer en Russie, de revoir leur famille, mais pas que. Pour continuer cet échange radiophonique que nous avons démarré l'année dernière dans le cadre du centenaire du monument aux morts des Jean-sur-Pigerol, j'accueille Jean-Paul Gadi, co-président de l'association La Courtine 1917, et Yves Lécart, poète et pacifiste. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va? Ça se passe bien à Jean-Pigerol?
Ça se passe très bien, oui. On vient d'arriver.
Vous êtes bien accueillis?
Ah, très bien, oui.
Il y a le soleil, hein, c'est déjà pas mal. Hein.
Il y a le soleil. Il ne va peut-être pas durer, mais il est là aujourd'hui.
Alors, Jean-Paul Gadi, vous êtes coprésidente de l'association La Courtine 1917. Et je voudrais savoir comment vous avez commencé cette quête autour de cette mutinerie, de cette histoire si peu méconnue. Pourquoi vous vous êtes intéressé à cette affaire?
Il y a eu, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, des personnes qui étaient soit des historiens, soit des férus de culture ou d'histoire, qui se sont dit que cette histoire était ignorée, méconnue, et qu'il n'y avait aucune raison que cela soit ainsi. Dans la mesure où c'est un fait extrêmement important. C'est la plus grande mutinerie qui ait eu lieu dans l'histoire. 10 000 soldats qui, pendant 3 mois, se révoltent, se mutinent, chassent leurs officiers, s'auto-organisent au camp de La Courtine et disent « Nous voulons rentrer chez nous, nous ne voulons plus faire la guerre ». Et nous pensons que dans la situation que nous connaissons aujourd'hui, aussi mouvementée, tourmentée, il y a lieu de faire connaître ce fait-là. Que des soldats ont mis la crosse de leur fusil en l'air et ont dit « Nous nous arrêtons, nous ne voulons plus nous battre, nous voulons rentrer chez nous ». Si aujourd'hui, sur tous les terrains d'affrontement, les soldats faisaient la même chose, peut-être que la paix arriverait assez vite.
Alors ces soldats, ils voulaient résister, ils ne voulaient plus continuer, faire partie de cette guerre meurtrière. Donc ils ne sont pas acceptés. C'est quoi ce qui est arrivé après?
Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu, pas loin d'ici, hein, au camp de La Courtine, pendant 3 mois, du 26 juin au 16 septembre, des négociations entre les états-majors français russes et le gouvernement français pour qu'ils rendent leurs armes, qu'ils rendent leurs chevaux et qu'ils rejoignent le terrain des combats sur le front. Ce qu'ils ont refusé de faire. À chaque ultimatum, ils ont dit non, nous n'acceptons pas. Et il y a eu un dernier ultimatum le 14 septembre où on leur a dit « Si le 16 septembre, vous n'avez pas rendu vos armes, eh bien, on vous les fera rendre par la force. » Et 2500 soldats russes loyalistes ont entouré le camp. En deuxième rideau, il y avait 5000 soldats français qui les aidaient au cas où. Et le bombardement a commencé donc le 16 septembre. Le premier coup de canon a eu lieu à 10 heures, a été déversé sur les mutins et les premiers morts, alors, sont apparus.
Il paraît qu'on entendait d'ici...
On entendait effectivement à...
Ici, des gens sur Pirole.
À 20-30 kilomètres, on entendait les coups de canon et les obus de 75 qui s'abattaient sur les mutins. Oui, oui, bien sûr. On avait évacué d'ailleurs le village de la Courtine. Voilà, il n'y avait plus personne, simplement une garde civique pour vérifier qu'il n'y avait pas des gens qui dégradaient ou volaient tout ce qui restait. Mais il n'y avait plus personne.
Yves Lécart.
Oui.
Alors, vous êtes poète pacifiste.
Oui.
Et du coup, pourquoi vous êtes invité aujourd'hui ici? Vous avez un lien particulier avec cette histoire de la mutinerie de la Courtine?
Alors, directement, non, bien sûr. Enfin, en tant que pacifiste, évidemment, c'est une histoire qui m'attire beaucoup. J'ai été amené, donc, il y a quelques années, il n'y a pas 10 ans, mais il y a bien 5 ou 6 ans, j'ai été amené à rencontrer l'association. Et évidemment, je me sens tout à fait en accord avec eux. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Et la poésie, c'est un outil de paix. Ça peut pas être autrement. Le poète, c'est pas seulement celui qui rêve et qui regarde les petits oiseaux. C'est aussi celui qui est là pour montrer le monde tel qu'il est et tel qu'il devrait être. Donc, il y a beaucoup d'utopie, mais c'est par l'utopie qu'on arrive à une réalité beaucoup plus viable et intéressante. Donc, voilà, je pense que la poésie, le poète a un rôle dans cette société. On s'aperçoit que c'est pas si simple, puisque on vient de commémorer l'Oradour, on vient de commémorer la libération et les mêmes schémas recommencent, quoi. C'est très inquiétant. Donc, la poésie est aussi une forme de militantisme et une forme de façon de tirer la sonnette d'alarme pour tout le monde.
Pour revenir justement à cette confluence, comment vous faites pour intégrer au sein de votre poésie un message politique, un message pacifiste, un message de paix?
Oui, ben par des textes qui sont, qui peuvent être, voyez, il y a de l'humour, c'est très important. Il y a l'humour, j'utilise alors de temps en temps des mots très très forts pour dénoncer justement. Ce qui se passe, ce qui est intolérable. J'utilise aussi par le biais de contes pour enfants une façon de transformer ce qui existe, ce qu'on leur met dans la tête de façon un peu brute et montrer qu'il y a autre chose, que la vie c'est autre chose, que la solidarité, ça existe, que l'étranger, c'est quelqu'un qui nous ressemble complètement, qui a les mêmes intérêts. Voilà, mais tout ça par la poésie, donc pour essayer de le faire passer plutôt que par des discours politiques qui sont plus ou moins toujours les mêmes, la poésie tire sur la corde sensible et elle parle au cœur aussi avant de parler à la tête.
Voilà. Auriez-vous un poème à nous partager, comme ça à chaud, hein?
Comme ça à chaud.
J'adore la poésie, donc.
Oui,
désolé,
évidemment.
Hein.
Folin de Gensio. Petit loulou de Gensio.
Oui, mais je l'ai pas en tête. Je l'ai pas en tête. Par contre, dans la sombre nuit de l'hiver, sous l'arche du vieux pont de pierre, un enfant s'est endormi en chien de fusil. Et le chien du fusil, futile outil rutilant, hurle, hurle, hurle à la mort que le fusil distribue aux quatre vents. Mais les quatre vents, d'écho en écho, transforment le cri du chien qui hurle, et de la mort, hurle à l'amour. Alors le fusil, nuisible, risible et fissible outil, ainsi fond, fond, fond dans la sombre nuit, se disloque et disparaît. Le pont de pierre sous les paupières devient palais, où l'enfant dort, sans fusil, avec juste un chien serré contre lui, petite peluche qui veille sur sa nuit.
Yves Lécart, merci, c'est beau, merci. C'était beau. Et bravo.
Merci.
Ah, vous pouvez...
Merci.
Quand même, on est en direct à Gennes-sur-Pigerol. Si vous êtes à proximité d'ici, venez nous rencontrer. C'est super bon. C'est quoi le nom, les titres du poème?
Le titre, c'est Le Pont de Pierre.
Oui, c'est beau.
Voilà. Alors, j'avais fait l'année dernière une lettre, puisqu'il y avait un concours.
Bon, c'est une lettre. Nous allons revenir au concours, effectivement. Voilà. Donc, c'était une lettre. C'était quoi les concours pour présenter
le concours,
aux
alors,
auditeurs?
Il s'agissait donc du centenaire du monument, avec le petit orphelin, qui a reçu en gros 160 lettres. Du concours, donc de jeunes et de moins jeunes. Et bon, je faisais partie du jury qui a sélectionné les six meilleurs. C'était pas toujours facile parce qu'il y avait des qualités, donc on était plusieurs à juger des lettres. Et nous sommes mis d'accord sur six lettres. Donc nous allons donner tout à l'heure les résultats. Et de mon côté, j'avais fait donc une petite lettre sous forme de poème, mais je ne l'ai pas apprise, donc je ne l'ai pas dans la tête, mais voilà.
Elle ne participait pas, hein.
Non, qui ne participait pas, c'était tout à fait hors concours.
C'était quoi les catégories?
Alors, il y avait catégorie adulte et catégorie jeune.
Ok.
Voilà, de jeune, adolescent.
Ouais. Bon, très bien, on va revenir là-dessus. Et je reviens vers vous, Jean-Paul Cady. Donc, co-président de l'association La Courtine en 1917. Cette année, vous fêtez les 10 ans déjà. Mm-hmm. 10 ans d'aventures, d'expériences, des luttes. Il faut se battre pour faire aussi, pour transmettre cette histoire. Je me demande toujours, et je vous demanderai toujours, pourquoi, pendant des décennies, cette histoire tragique de cet homme fut quasiment occultée.
Les pouvoirs, quels qu'ils soient, et les gouvernements en particulier, n'ont aucun intérêt à dévoiler ou laisser se dévoiler des faits de cette nature. Imaginez un peu que l'on propage partout que des soldats, à un moment donné, décident de ne plus se battre. Le soldat est fait pour la guerre, il est fait pour tuer. Ben non, ceux-là, ils avaient décidé de ne plus se battre. Alors, il faut étouffer ça. Il faut que cette histoire ne soit pas connue, comme beaucoup d'autres, d'ailleurs. Au même moment, en 1917, au printemps, les armées françaises étaient touchées par des mutineries extrêmement importantes. Les soldats n'avaient plus de permission, alors ils exigeaient de pouvoir entrer dans leur famille. On leur disait non, parce qu'il faut continuer sur le front à combattre. Et là, ils se sont mutinés. Alors, ça n'a pas duré aussi longtemps que les soldats russes, mais par moments, il y a eu des manifestations dans les villages qu'ils traversaient, ils chantaient l'international, ils disaient on va pendre tel ou tel officier. Bon, ça a été quand même un profond mouvement dans l'armée française, mais qui s'est quand même, colmaté, qui n'a pas existé aussi longtemps que la mutinerie des soldats russes.
Nejma Lilou, n'hésitez pas, hein, vous pouvez poser aussi des questions, hein, vous êtes, les micros sont ouverts, hein, je vous dis. Donc, pourquoi fêter cet anniversaire à Gennes-sur, à Felletin, à La Courtine, à Saint-Sétier?
Ces quatre villes ont une histoire particulière. Gennes-sur, c'est pas à vous et aux auditeurs que je vais apprendre cette histoire tout à fait particulière de l'édification de ce monument en 1923, un des rares en France qui soit aussi affirmatif contre la guerre, hein, l'orphelin qui brandit le poing vers maudite soit la guerre. Et puis nous étions là l'an passé pour le centenaire, et donc avec la municipalité, avec bien d'autres gens, on a décidé, à l'occasion des 10 ans de l'association La Courtine 1917, de commencer ces 4 journées ici, à Gennes-sur, avec la remise des prix de la lettre à l'orphelin. Et cela va commencer d'ici 2 heures, 3 heures à peu près, par un spectacle qui met je veux dire, en exergue ces 6 textes qui ont été récompensés et sélectionnés par le jury. Donc on commence à Gensoul. Feltin, pourquoi ? Parce qu'il y a eu des soldats russes qui ont été, au mois de juin et juillet 1917, amenés à Feltin pour ne pas être contaminés, entre guillemets, par leurs camarades de la courtine. C'était la 3e brigade, ils étaient 6500, et on a décidé de les retirer du camp de la courtine pour qu'ils ne deviennent pas eux-mêmes des mutins. Donc ils sont restés un mois à Feltin, ils ont érigé un campement avec leurs tentes et tout, et puis ils se sont liés comme à la courtine, oui. Avec les populations à Feltin. La courtine, eh bien, tout le monde comprend pourquoi nous allons organiser des événements là-bas. Et Saint-Seutier, figurez-vous qu'il y a eu de découvertes à Saint-Seutier, il y a des années de cela, des cabanes en pierre dans les bois qui avaient été construites par les soldats russes qui étaient à la courtine, mais comme on demandait également de pouvoir aller dans les communes pour reboiser le plateau de Mille Vaches, des soldats ont été affectés à Saint-Seutier au reboisement du plateau. Et si vous connaissez l'arboretum à Saint-Seutier, qui est magnifique, il y a des arbres qui ont été plantés par les soldats russes en 1917 à l'arboretum. Et donc ces cabanes, il y aura une promenade qui va partir le dimanche prochain de la courtine et qui va arriver 14 km plus tard à la cabane des mutins à Saint-Seutier. Voilà, c'est une belle histoire aussi.
Bah c'est plus clair pour moi, en fait. Je ne comprenais pas pourquoi c'était éparpillé,
oui.
Mais
oui, voilà.
Tout a un sens. Oui. Alors, je vous propose de passer à un petit morceau. On va s'écouter un morceau et on va inviter Benjamin Simons, maire des Gensoul-Pirols. Ne partez pas, Jean-Paul Gadi. On revient, on va s'écouter Grazoun et Sbaer.
Hey.
vous écoutez Radio Vassivière, la radio de la montagne limousine. On est toujours en direct depuis Jean-Sieu Pucherolles. Aujourd'hui, nous parlons des disons de l'association La Cortine. Et on a écouté quoi, Justine? Tu m'as dit, je parle mieux en espagnol qu'en allemand. Ça ne m'étonne pas. Hein.
C'était Iceberg de Grauzone.
Merci, merci. Alors, donc, bonjour, Benjamin Simons, maire de Jean-Sieu Pucherolles.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation.
C'est toujours un plaisir d'accepter les invitations de Radio Vassivière.
On va nous rafraîchir un peu la mémoire. On va s'écouter un petit spot qui nous avons beaucoup passé l'année dernière dans le cadre de centenaire de Monuments aux Morts. On y va, Justine.
Cette année, c'est le centenaire du Monument aux Morts pacifistes de Jean-Sieu. C'est en 1923 qu'aurait pu être inauguré officiellement le Monument aux Morts de la commune de Jean-Sieu.
Inauguré par le conseil municipal et les habitants et les habitantes, il fut uniquement salué par un préfet en 1985.
Ce monument, connu pour son cri gravé dans la stèle, marque le tournant d'une époque qui désormais délégitime l'usage de la guerre.
Maudite soit la guerre.
Yo te miro y mi rabia te toca. Cuando grito sin usar la boca y mi furia se come a la gente.
Pour célébrer cet anniversaire, la commune de Jean-Sieu Pucherolles vous propose, en partenariat avec Radio Vassivière, une année des programmations culturelles inspirées de l'histoire de la Grande Guerre.
Spectacle,
exposition,
projection
et conférence.
Les 4 et 5 novembre, un week-end dense et spécifiquement dédié à la Première Guerre mondiale accueillera à Jean-Sieu historienne,
sociologue,
conteur,
auteur et descendant d'hommes politiques opposés à la guerre.
Toutes les informations concernant le centenaire, sa programmation, sont à retrouver sur le site internet de la commune www.jeansieu-pucherolles.fr.
Et voici, on est de retour. Et Benjamin, ça va depuis la dernière fois? Comment ça a évolué cette année d'événements, des manifestations autour du centenaire des monuments aux morts, puisque aujourd'hui on boucle la boucle, justement avec la remise des prix du concours d'écriture?
Alors c'est vrai que ça a été une année 2023 qui a été assez dense, hein, à la fois pour la commune, mais aussi pour tous les partenaires qui nous ont accompagnés sur cet événement. Alors, il y a eu quand même un petit moment de repos hein, sur ce début d'année, et puis un travail notamment assez long, quand même, du jury, hein, mais d'autres intervenants sont mieux placés que moi pour le savoir, parce que c'est quand même un succès, hein, on a dit plus de 140 candidatures, donc un long travail, en fait, qui permet aujourd'hui d'aboutir à cette cérémonie de remise des prix. Et qui va, ben, on le disait, qui à la fois, certes, va boucler ce programme du centenaire à Jean-Sieu Pucherolles, mais ouvre aussi en même temps l'anniversaire des 10 ans de l'association La Courtine 1917 et continue en tout cas de maintenir un sujet d'actualité. Il y aura peut-être encore des mouvements sur cette année 2024 aussi.
Alors j'ai une petite question, il est passé où l'orphelin? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Hein. Il est parti faire un tour ou quoi?
Non, mais il est parti remercier les 141 participants, sans doute. Non, effectivement, ça a été aussi une... Donc, comme on l'a dit, il y a eu quand même aussi d'autres actualités sur les années 2022-2023 autour de ce monument aux morts qui ont abouti quand même à un certain nombre d'interventions et de réparations sur le... En tout cas, de remise en état de ce monument sur l'année 2023, notamment. Et donc la municipalité a saisi aussi l'opportunité de ce centenaire pour engager un programme de rénovation plus large qui comprend en fait l'ensemble de ce qui compose matériellement le monument, c'est-à-dire à la fois la maçonnerie, à la fois les ferronneries et donc la statue de l'orphelin, pour engager un programme de restauration dans l'idée de lui redonner vraiment son aspect de 1923.
Nous partons sur un ton, quel ton, c'est quoi la deadline pour aboutir le chantier ?
Ben là, normalement, c'est imminent, puisque la dernière partie de ce chantier va être, elle concerne proprement la statue, qui devrait être remise en place. On nous a indiqué en prévisionnel mi-juin, donc on est le 13 juin, donc ça ne saurait tarder.
Alors, comment vous positionnez-vous, la commune de Josion-Pirolles, pour accueillir, justement, pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, cette association, la Courtine 1917, pour la fête des 10 ans?
Déjà, on ne peut que saluer l'énergie infaillible de cette association, notamment sur et sa force de proposition, puisque donc il nous restait quand même ce moment important qui était la fin de ce concours d'écriture et la remise des prix. Et c'est l'association qui a quand même proposé de mettre en scène les différents courriers reçus par les lauréats. Et c'est justement à partir de cette proposition-là qu'on a pu structurer la chose. Encore une fois, la commune se veut pas mal un accompagnateur des initiatives là-dessus. On a mobilisé aussi des associations partenaires locales qui vont nous permettre de passer, on n'en doute pas, une excellente soirée.
J'aurais dû peut-être de vous poser d'abord, je vais vous voir, cette question. Pourquoi faire un concours qui rend hommage justement à cet orphelin? Pourquoi passer par ces biais?
Alors, les commémorations autour du centenaire, elles portaient à la fois bien sûr un rôle mémoriel, c'est-à-dire un enjeu de marquer, de rappeler aussi qu'est-ce que c'était la Première Guerre mondiale et quel était le contexte d'émergence de ce monument. Mais ça aurait été un petit peu aride quelque part de juste se contenter de quelque chose tourné uniquement sur le passé et de ne pas remettre dans l'actualité, dans qu'est-ce que c'est aujourd'hui que la question de la guerre et de la paix. Et le concours d'écriture, ça a été une manière, un peu comme les spectacles vivants peuvent l'être, de remettre aussi de l'actualité sur ces questions-là, et notamment d'entendre ce que les gens ont à écrire, en l'occurrence, sur ce fait de la guerre et sur cet enjeu de la paix. Et donc c'est vraiment dans cette perspective de redonner de l'actualité à ces questions-là que le concours d'écriture a été lancé.
On va profiter qu'Yves Lécart est parmi nous, poète, pacifiste et membre du jury. Du coup, je voudrais savoir comment ça s'est passé, ce processus pour lire, s'emparer de toutes ces lettres. Vous savez coordonner comment ?
Eh bien, c'était pas très évident parce que nous étions très, très dispersés. Donc, nous avons reçu... Au fur et à mesure de leur arrivée, c'est Clara qui a fait aussi un travail énorme là-dessus et qui a tout sélectionné, qui nous a envoyé au fur et à mesure les lettres. Chaque membre du jury avait un barème, plusieurs critères, on va dire, plusieurs critères de qualité, les coups de cœur. Le respect de la langue, le sujet. Le sujet, c'était quand même une lettre à l'orphelin. Donc, il y a plusieurs lettres qui ont été écartées parce que c'était complètement hors sujet. Intéressant, mais hors sujet. Et puis, à partir de là, donc, on a évalué, on a donné des notes entre 1 et 5. Et puis, à la fin, encore une fois, c'est Clara qui a tout répertorié pour mettre... pour classer en fonction des lettres. Alors, il y en a certaines sur lesquelles il y a eu unanimité, on était tous d'accord, tellement on était pris par... très touchés par les lettres, et d'autres où il y a eu des divergences parce qu'on n'était pas... c'est le propre d'un jury, on n'a pas tous le même ressentiment. Et donc certaines plaisaient pour telle ou telle raison à certains et moins à d'autres. Et puis on a fini par se mettre d'accord. On en a quand même trouvé trois. Et Trois de chaque catégorie.
Donc, trois jeunesses et trois catégories adultes.
Trois jeunes et trois adultes. Voilà. Et puis, j'étais très, de mon côté, très, très content parce que déjà, j'adore la langue française. C'est mon dada. la poésie, donc j'étais très, très touché par tout ce que je recevais, par toutes les idées, des idées qui me touchaient davantage, qui allaient dans le sens de ce que je pense moi-même. Tout ça, ça fait partie de mes critères de sélection. Et puis j'étais touché d'avoir été choisi par l'association pour faire partie du jury. Et voilà, donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Quoi.
Et juste pour rappeler à nos auditeurs, nos auditrices, à 19h aujourd'hui, jeudi 13 juin, il y aura la remise des prix, justement, du concours d'écriture, donc organisé dans les cadres du centenaire, on le rappelle, du monument aux morts. Écrire à l'orphelin du monument, donc 160 textes arrivés au jury national. Vous étiez combien ?
On était combien ? 8 ? Ouais.
Ouais, c'est chouette d'écouter cette partie-là, mais tout à l'heure, on va écouter les jeunes et un des personnes primées. On va revenir à parler là-dessus et on va parler aussi des poésies plus tard.
D'accord.
Jean-Paul Gady, il y a plein d'événements, mais si je vous demande, c'est quoi l'événement phare de toute cette programmation ?
Bah, c'est trop difficile. Je vais vous dire, c'est ce soir. Et puis demain, si vous posez la question, on vous donnera un autre élément phare. Non, je crois que tout va être, comme on a pu l'écrire, il y en a effectivement pour tous les goûts, pour les adultes, pour les jeunes. J'étais ce matin, par exemple, à la Courtine. Et il y a eu la projection d'un film d'animation fait par les élèves pendant plusieurs mois sur le thème « Les mutins et la paix ». Et c'est un film d'animation qui est magnifique, qui dure 11 minutes. Et ça montre finalement que cette histoire, si on la met dans toutes les mains, il y aura beaucoup d'initiatives comme ça qui vont se faire jour, qui vont jaillir. Et je crois que... ce soir, la remise des prix fait partie de ces convergences d'initiatives qui vont tous dans le même sens. La paix, et puis expliquer pourquoi aujourd'hui c'est indispensable de liguer nos forces, de se réunir par la poésie, par les textes, par les conférences pour promouvoir non seulement cette idée, mais combattre pour cette idée.
Benjamin Simons. Je vais te libérer, hein. Tu serais content. Le mot de la fin, qu'est-ce que tu souhaites à cette association à l'avenir, l'association La Courtine 1917 ?
Oh ben, je leur souhaite une très bonne continuation déjà sur ce gros rendez-vous qui va se prolonger, auquel je ne manquerai pas de participer. Et aussi au fait de pouvoir continuer à porter ce message, puisque comme on l'a dit, c'est encore une fois un message qui a trop rapidement tendance à disparaître et la société actuelle a une tendance à assez vite noyer les sujets dans un brouhaha de discussion. En tout cas, bravo encore pour cette persévérance et pour tout ce travail. Et rendez-vous bien sûr d'ici peu de temps pour cette remise des prix.
Et rendez-vous bien sûr sur radiovassifère.com si vous avez loupé les directs radiophoniques autour du monument aux morts, à qui appartient ce monument et un autre plateau radiophonique fort intéressant avec Jean-Yves Le Naour et plein de conférenciers. Donc voilà, je vous invite à aller sur le site internet radiovassifère.com, à écouter tout ça. Et Jean-Paul Gady, merci. On va vous libérer aussi, on va donner place aux jeunes primés. Et Yves Lécart, restez avec nous, on va passer un petit moment ensemble et on va s'écouter Zombie des Cranberries.
C'était Zombie de Cranberries. On est toujours en direct de Radio Vassivière dans la mairie de Gensioux-Pigerolles. La voix des animatrices ont changé parce que c'est un coup d'État. Maintenant, c'est la place des jeunes avec les trois jeunes primés du concours d'écriture des lettres à l'orphelin du Monument aux Morts qui tend les bras vers l'inscription « Maudite soit la guerre ». On est avec Uma, Olga et Myriam. Bonjour.
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 Alors, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter l'une après l'autre?
Je m'appelle Myriam, je suis en terminale au lycée Pierre Bourdon, du coup à Guéret, et j'habite sur A1.
Je m'appelle Uma, je suis en troisième dans un collège en fait à Paris, mais ça fait longtemps qu'on vient ici souvent en vacances et pour acheter une maison, donc voilà.
Donc je m'appelle Olga, pareil comme Myriam, je suis en terminale au lycée Pierre Bourdon à Guéret, et j'habite à Felletin.
Ok, super. Alors, je me demandais, qu'est-ce qui vous avait donné envie de participer à ce concours?
Quant à nous, c'est avec notre professeur d'histoire-géographie. Il nous a inscrit à ce concours-là l'année dernière, du coup. Et toute la classe devait écrire une lettre pour le monument. Et du coup, avec Olga, c'est dans ce cadre-là qu'on a pu participer au concours.
Ok. Et Uma?
Moi, du coup, j'étais en vacances ici. Et je faisais rien du tout et j'ai appris qu'on pouvait le faire. Et comme j'aime bien lire, j'aime bien écrire, j'aime bien l'histoire, je me suis dit que j'allais juste participer.
Ok, super. Eh ben, ça me mène à mon autre question. Vous aimez écrire tout le temps ou c'était vraiment dans le cadre du concours, pour une fois?
Pour ma part, moi j'aime beaucoup écrire, mais de façon spontanée. C'est-à-dire que c'est très rare pour moi de me mettre devant une feuille de papier et de me dire « Oh, si maintenant j'écrivais quelque chose !» Non, ça va être généralement pour un peu comme pour laisser sortir les émotions. Et là, ça m'a particulièrement touchée en fait, de participer à ce concours, parce que bien que j'ai envoyé ma candidature sans trop y penser, puisque c'était un devoir d'école finalement, ça me touchait vraiment d'y participer, parce que moi j'ai grandi à Gensioux-Pigerolles, et j'étais de la petite section au CM1 dans cette école, donc ça me fait quelque chose d'être ici aujourd'hui avec vous.
Ben oui, ben c'est normal, on comprend bien.
Pour moi, non. Enfin, j'aime bien écrire, mais je le fais un peu jamais parce que j'y pense pas et je me dis jamais que ça vaut le coup. Ou j'ai jamais vraiment. Enfin, j'ai rarement de l'inspiration et quand j'en ai, j'ai pas l'opportunité d'écrire. Du coup, je le fais pas trop.
D'accord.
Et moi, j'écris pas souvent non plus. J'aime. Enfin, quand j'écris quelque chose, ça vient tout seul. C'est pas difficile pour moi quand je rends des devoirs à l'école ou quoi d'écrire. Mais c'est vrai que c'est pas une activité que je fais comme ça pour le plaisir. Je prends pas le temps, mais c'est pas non plus quelque chose que je déteste, quoi. Ça vient tout seul. C'est comme. Enfin,
voilà. D'accord. Et est-ce que vous avez déjà participé à d'autres concours d'écriture?
Moi, non.
Non.
Et ça vous fait quoi alors d'être. Vous êtes les trois à avoir gagné, c'est ça, les trois premiers prix? Super. Ça vous fait quoi?
Moi, comme je disais, ça me touche particulièrement. Enfin, je trouve ça particulièrement étonnant. J'ai déménagé il y a quelques années de ça déjà. Et donc, de revenir, d'être à nouveau impliquée dans des événements qui se passent à Gensioux, c'est un cadre particulier et ça va créer des souvenirs encore à nouveau. Donc,
bah ouais, c'est trop bien.
Moi, j'étais. Enfin, ça m'a beaucoup surpris quand j'ai appris parce que je l'ai fait, donc justement c'était pendant les vacances. J'y ai pas trop pensé, j'ai envoyé. C'est ma mère qui m'a forcé à l'envoyer parce que j'osais pas. Et puis après, j'ai vraiment oublié quoi. J'ai reçu l'email, j'étais assez surprise, mais oui, vraiment ça m'a beaucoup beaucoup surpris et je m'y attendais pas du tout.
C'est normal.
Bah, moi c'est un peu pareil, du coup, quand Dame m'a appelée pour me le dire, je m'y attendais pas parce qu'en plus on l'a envoyé dans le cadre scolaire nous, du coup bah, on l'a fait ça sans vraiment y penser, comme si c'était un devoir et après on a oublié quoi, il y a eu les vacances et toute l'année scolaire qui est passée et avoir gagné c'était quand même, moi j'étais contente.
Bah oui c'est cool, c'est une bonne surprise quoi.
C'est ça, c'est une bonne surprise.
Et donc du coup ce que vous avez dû faire c'est écrire une lettre à l'orphelin du Monument aux Morts. Est-ce que toi, tu disais que tu avais, Olga, tu disais que tu avais vécu à Gensioux. Est-ce que toi, tu as un rapport à cette statue, enfin à ce monument?
Un rapport particulier? En fait, il a toujours été présent depuis que je suis petite. J'avais l'habitude de passer devant tous les jours, etc. Donc, est-ce que j'ai un rapport particulier? Non, mais il était inscrit dans mon quotidien. Et donc, c'était vraiment une figure qui me. qui me parlait d'écrire à l'orphelin. Et donc, je sais que plus petite, avec l'école, j'ai déjà participé à des cérémonies. Je pense que j'ai dû chanter quelques fois. Donc, écrire, c'était encore un nouveau moyen d'être en lien avec cet orphelin du monument.
Ok, trop bien. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que vous avez mis dans votre lettre?
Moi, j'ai fait comme si c'était une sœur, donc une sœur de couvent, qui a annoncé à l'orphelin que son père était mort, parce que la sœur, c'était la dernière personne à avoir vu son papa, parce qu'il était arrivé blessé dans le couvent et elle s'en était occupée, et ils avaient tissé un lien ensemble. Et de là, quand le père de l'orphelin décède, elle écrit la lettre à l'orphelin pour lui apprendre le décès de son père.
Et elle t'est venue d'où, cette idée ?
C'est un peu mon imagination. Enfin, j'ai imaginé comment il pourrait apprendre que son père est mort. Et je me suis inspirée aussi de la réalité, des films qu'on peut voir sur la guerre et tout ça. Et après, j'ai brodé un peu l'histoire avec mon imagination.
Ah oui, c'était une super bonne idée, ça.
Merci.
J'aime beaucoup. Moi, j'aimerais bien les lire. Je ne sais pas si ce sera possible, mais j'aimerais bien.
Moi, je l'ai, mais dans mon sac.
Je lirai ça. Ouma ?
Donc moi, j'ai fait une jeune fille de mon âge. C'est en 2147, donc c'était vraiment après une sorte d'apocalypse, dans le sens que tout le monde de sa communauté, en fait, avait... Donc il y a des guerres qui sévissaient partout, et au final, toute sa communauté avait été effacée. Et elle décrivait un petit peu sa vie jusque-là, comment ça avait été, comment ça se fait qu'elle écrivait aussi à l'orphelin, parce qu'en fait, elle avait trouvé sa statue. Sous des décombres, donc en fait elle a été détruite, et c'était en fait un petit peu pour parler de l'ironie, parce que c'est une statue qui est pour la paix et qui au final est détruite par la guerre, parce qu'elle avait été détruite justement par la guerre. Et donc elle parlait un petit peu de cette ironie, mais aussi de ce qui allait advenir pour elle, c'est-à-dire rien, parce que tout avait disparu, du coup il n'y allait pas avoir quoi que ce soit après.
Mais vous avez des super bonnes idées, j'adore. J'avais pas compris que c'était un concours sur un thème aussi libre, en fait. C'est super d'avoir choisi une date un peu plus loin dans le futur, dans un autre thème complet qui est l'apocalypse, un peu la post-apo. C'est super cool. Olga ?
Alors, pour ma part, je ne me souviens pas exactement de ce que j'ai écrit dans ma lettre, puisque c'était il y a un an, et j'ai perdu l'exemplaire, donc le concours, l'unique exemplaire. Et je trouve ça assez chouette, parce que donc, Myriam a fait une lettre du passé, Uma une lettre du futur, moi j'en ai fait une du présent. J'ai choisi de m'adresser non pas seulement à l'orphelin du monument, mais à tous les orphelins, en fait, plus qu'à la figure de l'orphelin. Je pense que le message que je voulais faire passer, surtout, c'était un message de paix en écho à l'orphelin. Mais la manière dont je l'ai fait passer, je ne me souviens absolument pas.
D'accord, je comprends, c'était il y a longtemps. Super, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. J'aimerais beaucoup lire vos lettres, si c'est possible. Et on va repasser le micro à Nini. Au revoir.
C'est la fin du coup d'État. Au revoir.
Merci Uma, Olga, Myriam. Et on va inviter notre deuxième prix adulte, donc Michel Lebailly.
Alors Nini, t'as quand même du souci à te faire, je crois, non ?
Oui.
La relève arrive fort.
Ouais, carrément.
Très fort.
Tu vous invites. Et j'invite aussi au plateau Corinne Ballade, Loïc Lé-Liosé et encore une fois Yves Lécart. Il est encore là ? Mon cher poète, vous êtes encore parmi nous. Alors Michel Lebailly, vous souhaitez bien vous présenter auprès de nos auditeurs, nos auditrices.
Eh bien, j'habite à la Ville Dieu depuis 3 ans. Je suis plus ou moins retraité. Je suis pacifiste depuis bientôt une cinquantaine d'années, donc ça m'a fait un petit peu tout drôle de voir les jeunes lauréates juste avant moi. Évidemment, il y a un petit saut générationnel.
Mais c'est émouvant. J'ai trouvé cet échange avec cette jeunesse vivante.
C'est très émouvant. Et évidemment, le pacifisme a vocation à être incarné par les plus jeunes, bien sûr.
Alors, vous avez écrit quoi ? dans
j'ai
votre
écrit
lettre.
Une lettre à l'orphelin, comme c'était, puisque c'était le thème du, le thème du concours. Moi, je suis réfractaire, certes, mais obéissant quand même, selon les circonstances. J'ai écrit une lettre à l'orphelin. Je ne sais pas s'il faut dévoiler. Il faut inviter les gens à venir à 19h
très bien. À la salle des fêtes. Gardons les suspens, alors. On dit.
Je peux juste dire que c'est un de ses camarades d'école qui lui écrit. Hein, donc, fait quelque chose de simple que j'ai essayé de faire un petit peu décalé parce que j'ai pensé aux membres du jury. Je me suis dit qu'il faut peut-être mettre un petit peu d'humour, faire un petit pas de côté, mais tout en restant évidemment tout à fait dans le droit fil de mes idées, qui sont des idées pacifistes, je vous dis, depuis bientôt 50 ans. Quoi.
Pourquoi vous avez senti interpellé pour participer à ce concours,
eh ben, en fin de compte. Avec toute la sympathie que j'ai pour les déserteurs, là, je ne voulais pas me défiler. Ce petit bonhomme de Gensiou, je le connais depuis plusieurs décennies, sans savoir d'ailleurs où était Gensiou, sans savoir où était la Creuse. Je ne suis pas très bon en géographie, mais cette figure-là, je l'ai vue sur des photos, je l'ai vue dessinée par Cabu. J'imaginais un petit peu une statue avec un piédestal, quelque chose d'un peu plus imposant. Et en fait, proportion gardée, ça m'a fait le même effet quand j'ai vu le Manneken Pis à Bruxelles. Donc la Belgique a le Manneken Pis et puis nous on a l'orphelin de Gensiou. Et c'est un petit bonhomme, quoi. Il est à taille humaine, il est son piédestal, il fait quelques, je sais pas, 20 cm de haut. Il a une proximité incroyable. Donc c'est un monument extrêmement émouvant. Je pense que les habitants de Gensiou ont énormément de chance d'avoir ce monument et de pouvoir le, sauf en ce moment, le voir tous les jours en passant sur la place centrale. Et donc voilà, bah j'ai voulu moi aussi m'adresser à ce petit orphelin.
Ben merci Michel Ebahy et puis félicitations, tout de bon
merci
pour
beaucoup.
Ce soir. Hein,
merci beaucoup.
Pour les prix, merci. Alors j'accueille Corinne Ballade, romancière marionnettiste.
Oui, bonjour.
Et pourquoi vous êtes aujourd'hui ici? C'est quoi les liens que vous avez avec Gensiou Pitirol, l'association La Cortine 1917?
Eh bien, ça remonte à quelques années lorsque j'ai écrit un roman sur l'histoire des mutins de La Cortine. Je suis originaire de la Creuse. Mon arrière-grand-mère me parlait déjà des Russes, mais elle me parlait d'une soixantaine de Russes à l'époque. Et puis, des cousins de la région m'ont dit « Mais non, ils étaient un peu plus, ils étaient 600 ». Et ce qui m'a interpellée, en fait, c'est le chiffre exact qui était 20 000. Et là, bien sûr, comme toute romancière, je me suis intéressée à cette histoire. J'ai approfondi, j'ai pris contact avec La Cortine 17, qui m'a donné beaucoup de documents, avec Rémi Adam également, qui a écrit un ouvrage très intéressant sur les mutins de La Cortine. Et c'est comme ça que j'ai rencontré cette association. Progressivement, je me suis dit que le roman, c'était bien pour amener cette histoire au plus près des gens qui ne se seraient pas forcément intéressés non plus, parce que c'est quand même très particulier, c'est rude. Et ça peut paraître un petit peu abstrait pour certaines personnes. Par le roman, on est dans ce quotidien, justement, de ce qu'ont vécu ces mutins de La Cortine. Et puis, en allant plus loin, avec l'association, j'ai construit un spectacle de marionnettes de manière à ce que les enfants puissent également s'approprier cette histoire et puissent comprendre un petit peu les enjeux de cette mémoire. Parce que les enjeux de cette mémoire, bien sûr, vont au-delà des mutins de La Cortine, puisque c'est aussi comment refuser la violence. Donc on a d'autres spectacles avec des débats avec les enfants. J'ai eu des enfants de 3 ans, comme on a des enfants, des collégiens, et tous ont le même questionnement. Donc comment arriver à apaiser les choses? Comment nous, on peut être acteurs aussi en tant qu'enfants? Comment surtout on peut se projeter vers l'avenir? Et c'est là où c'est important. On parlait tout à l'heure des lettres à l'orphelin. Moi, j'adore ce qu'ont écrit les jeunes, c'est extraordinaire, même si j'aime beaucoup aussi ce qu'ont écrit les adultes, bien sûr. J'ai beaucoup aimé aussi le petit mot « Oh, j'ai mis un petit peu d'humour pour les gens du jury. Merci !» Parce que c'est vrai qu'on a eu quelques lettres un peu plus classiques. Mais j'avoue que nos jeunes, vraiment, ont eu une originalité dans leur écriture extraordinaire, une vision, parce qu'ils n'ont pas parlé que de l'orphelin et de 14-18, justement. On parlait de 2147, hein, Ouma. Et ils ont ouvert ce qui s'est passé là en 14-18 à tous les conflits, à ce qu'ils rencontrent aujourd'hui. Et c'est à partir de là qu'en travaillant aussi dans les écoles, on a mis au point ce qu'on appelle un CTEAC. C'est un contrat territorial d'éducation culturelle auprès des enfants pour leur faire faire un film d'animation qui démarre sur l'idée, sur l'histoire des mutins de la Courtine, mais qui va encore au-delà.
Merci Corinne Vallade, c'est fort intéressant. On aura l'occasion d'échanger. On n'a que 4 minutes pour boucler les plateaux radio, mais Loïc Lédiouzet, donc musicien, comédien, vous animez cette soirée, c'est ça, aujourd'hui ?
Oui, aujourd'hui, alors, demain, après-demain, pas tous les jours. Oui, on va se remuer, on va faire plein de choses. Bon, il y aura de l'accordéon. L'idée, c'est quand même de... C'est une fête aussi, les 10 ans. Donc oui, il y a la thématique de fond de l'association qui relate cette histoire des soldats russes qui sont venus pendant la guerre de 14-18, mais on veut faire ça dans aussi une bonne humeur, etc. Bon, en même temps, les chansons ne sont pas toujours des chansons forcément joyeuses, mais le fait qu'il y ait de la musique, que ce soit chantée, ça amène une certaine dynamique. Là, ce soir, on aura des courts extraits de chansons pacifistes pour la plupart. Et donc, voilà, c'est ce qui va le mieux avec cette thématique. Voilà, on laisse la vedette aux lettres et à ceux qui les ont écrits.
Alors, Corinne, vous étiez membre du jury. Vous aussi, Loïc ?
Membre du jury.
Donc, Corinne, Yves. Et j'aimerais juste faire écho justement à votre propos, Yves Lécart, en parlant de poésie, des cultures, d'art, comme outil justement de paix, de transmission d'un discours complètement différent, tourner complètement, en fait, tout ce que cette histoire nous laisse pour donner une réflexion à nos jeunes, à nos enfants, et dire ben, ça peut être un outil plutôt de paix et des réconciliations.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Ben justement, enfin, je vois, j'ai rendez-vous demain avec les enfants de Gensiou et de Faux, la montagne, pour leur raconter une histoire que j'ai écrite, un conte, par le conte, c'est aussi un chemin intéressant parce que on peut leur amener des idées et des façons de penser. Donc je joue aussi avec les mots, avec la langue, et leur montrer que le mot, c'est un personnage qui bouge, et la paix, elle peut arriver, elle dépend de chacun de nous, de nous tous, et ça par le biais du conte, sans leur faire un discours complètement abstrait. Et donc c'est aussi quelque chose qui me parle beaucoup et auquel je crois.
Et comme on s'est dit, c'est aussi, ça permet les voyages dans les passés, dans les futurs, dans les présents, ça permet aussi une rêverie et apporter des nuances justement à cette histoire qui est quand même assez lourde. Et juste une petite question, Corinne, quand vous avez écrit votre roman, c'était comment cette recherche ? C'était facile, avec des infos partout ?
Il a fallu effectivement creuser, faire des archives, parce que les militaires ne nous laissent pas l'accès. J'ai voulu aller dans le camp de la Courtine, même avec des appuis, je n'ai pas eu le droit. Il a fallu que je prenne les chemins détournés.
Ouais, d'accord.
Mais c'est ce que font toutes les romancières, on prend les chemins détournés. Et puis la Courtine 17, l'association m'a beaucoup aidée. Rémi Adam également, puisque c'est l'historien qui, lui, a énormément travaillé dessus, donc il avait de la documentation.
16h59, on est toujours en direct depuis Gensiou Pigerol. Est-ce que ça vous dit si on se quitte avec un poème d'Yves Lécart ? Vous êtes prêts ?
Oui.
Alors on y va avec cette poème.
Il y a eu les chercheurs d'air, il y a eu les chercheurs d'or, nous sommes les chercheurs d'air. Le monde ne manque pas d'or, mais d'air. Il y a eu la fièvre de l'or, or sans air nous avons la fièvre, nous manquons d'air. Il nous faut changer le décor, changer l'or en air. Nous sommes les alchimistes de l'ère moderne, une ère qui manque d'air. Il nous faut changer le décor, changer l'or en air, changer l'idée de l'or, l'idée que l'or aurait plus de valeur que l'air, l'idée que l'or serait plus précieux que l'air. Or, tant que l'or dure, il est dur d'avoir de l'air, de l'air pur, car l'or est délétère, et l'air est de l'éternel. L'art est dans l'air plus que dans l'or. C'est à l'art de transformer l'or en air, faire que le décor soit d'équerre, d'accord, décortiquer le décor, car l'air est dehors, et le silence est d'air, mais l'art fait d'air.
Bravo! Merci Corinne, Loïc, Yves, Michel. Et puis on s'est donc rendez-vous tout de suite là, ici, à Jean-Sue Pigerol, parce que voilà, on a les 10 ans de l'association La Courtine 1917. C'est la fête, donc et du coup, ça va jusqu'au 16. Et on s'est quitté en beauté, en musique, avec les Fabulosos Cadillacs, mais pas avant de dire à mon équipe Radio Vassivière, merci la technique Justine Didier, nos stagiaires des chocs Nejma et Lilou, et voilà, Nini Vidiega qui vous parle, tous les jeunes, merci d'être venus, et à notre public nombreux, merci beaucoup et à une prochaine fois.